Des mots pour le dire. Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, pour des mots pour le dire. Des mots pour le dire, c'est une manière de s'appuyer sur un livre intitulé Théologie buissonnière qui nous fait naviguer en dehors de tout ce qui est traditionnel, de tous ces repères qui, à force d'habitude, nous font oublier la profondeur des mots, la profondeur des images. Et justement, profondeur des images, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. À partir de cette découverte, et nous attaquons déjà le deuxième tome qu'est en train d'écrire Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve cette semaine pour, ma foi, un des mots importants qui va marquer à la fois le monde biblique, le monde évangélique, et puis surtout aussi aujourd'hui le monde, que ce soit le monde juif comme le monde musulman, se retrouve sur la question de l'absence de l'image.
Voilà, nous allons parler de l'image. On dit toujours chez nous « sage comme une image », mais ce monde de l'image est un monde qui déchaîne beaucoup de polémiques.
Surtout quand c'est des caricatures.
Oui, absolument, absolument. Alors, on sait que la Bible juive, qui souvent parle de Dieu, pourtant de manière anthropomorphique, proscrit toute représentation visible de ce même Dieu. Et cet avertissement solennel est une des 10 paroles, décalogue ou bien... comme on dit, des 10 commandements. Voici ce qu'on lit en Exode 24:5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Alors, pour le mot image taillée, la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de la Bible juive à Alexandrie, a le mot « eidolon » qui a donné notre mot « idole ». Et pour « représentation », ni de représentation quelconque, etc., la Septante a « homoioma » qui signifie en grec « ressemblance » ou « similitude ». Donc ce mot de « représentation » élargit l'interdiction à toute figuration visible à visée reproductrice, ou mimétique. On sait que le mot français « image » est de la même racine que le mot « imiter », lequel renvoie à « imiter imitare » qui signifie « imiter » en latin. Donc « image », c'est quelque chose de mimétique. Alors en effet, on aurait pu penser que si l'image taillée, c'est-à-dire la statue, par sa tridimensionnalité, pouvait paraître plus réaliste ou plus proche du modèle, on aurait pu néanmoins admettre le tableau, par exemple, qui est bidimensionnel et qui est donc davantage éloigné de la vie. Ce sera plus tard l'option du christianisme orthodoxe, qui, après bien des hésitations sur le problème de l'image, refusera dans ses figurations sacrées les statues, qui sont tridimensionnelles, mais admettra les icônes, qui, elles, sont bien bidimensionnelles. Alors, le tabou consistant à la représentation de Dieu, qui est le tabou général juif, tombera donc partiellement en monde chrétien orthodoxe. Il tombera totalement en monde chrétien romain, puisque le christianisme catholique, par exemple, admet jusqu'au statut. Mais ce tabou réapparaîtra, alors là, Redouane, vous pouvez le confirmer, il me semble, il réapparaîtra et perdurera à partir du XVIe siècle en monde protestant, où les seules marques ou les seuls signes de Dieu seront la parole, incarnée dans la chair, et la musique, qui est le plus abstrait des arts. C'est bien cela.
Vous êtes sur le bon chemin.
Ah oui. Un iconoclasme luthérien, par exemple, fondamental, calviniste aussi. Alors en fait, ce qui est critiqué dans la Bible juive, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste à identifier, représenter et reproduire. Reproduire, c'est faire venir effectivement, ici. Donc l'image, c'est l'anagramme de magie. Alors vous savez ce que c'est qu'un anagramme? On mélange les lettres d'un mot et on en fait un autre. Eh bien si je mélange, comme au Scrabble, les lettres d'image, j'ai magie. Et effectivement, représenter par l'image mimétique, c'est se rendre présent, donc avoir prise en quelque façon sur ce qu'on représente, le capturer pour éventuellement le mettre à son service. Par exemple, il faudrait réfléchir à l'expression « prendre en photo ». Vous voyez, on n'y réfléchit pas assez à l'expression « prendre en photo », c'est capturer quelqu'un, hein. C'est avoir l'image de quelqu'un, et c'est donc d'une mainmise qu'il s'agit, hein, Redouane.
Oui, comment prendre un papillon,
par exemple. Voilà, comment prendre un papillon, tout à fait. Il y a un livre très important de Michel Tournier qui s'appelle « La goutte d'or », dont le héros est un petit berbère, justement, qui lui est habitué à une civilisation iconoclaste, et qui voit dans cette touriste qui le photographie, qui le prend en photo, une dépossession de soi. Et Tournier, dans ce livre, dit que l'image est l'opium de l'Occident, précisément. Et à la fin, le salut spirituel de ce héros se fera par l'apprentissage de la calligraphie musulmane, c'est-à-dire ce qui tourne le dos complètement à l'image mimétique. Hein. Alors, le monde juif, lui, n'admet que l'écoute de la parole de Dieu. Le credo juif, c'est « Shema Israël », c'est-à-dire « Écoute Israël hein. ». Et ce tabou, donc, sur la représentation, se retrouve à l'identique, comme je viens de le dire, en monde musulman. Si on regarde par exemple l'arabesque, eh bien l'arabesque, qui vient de l'arabe, bien sûr, est un dessin abstrait, et aussi le tapis est abstrait, et il est interdit d'y reproduire quoi que ce soit de visible qui relèverait de l'imitation ou de la ressemblance. Et même pour garder la transcendance absolue de Dieu, le tapis ne doit pas être fini. C'est-à-dire qu'il doit y avoir dans une de ses parties une imperfection hein, pour ne pas rivaliser avec Dieu. Seul Dieu est parfait. C'est intéressant ça, hein, le tapis non fini. Hein, Redouane, vous connaissez bien ce mot.
Oui,
hein.
Donc, il faut bien préciser, c'est une part de symbole qui est réalisée là, donc pour qu'on ne prenne pas, disons, le mot à la lettre.
Oui.
C'est symboliquement une manière de configurer le monde dans lequel il est en relation avec Dieu.
Tout à fait, tout à fait. Alors, je dirais quand même qu'il y a image et image. Hein. Qu'il y a des images, bien sûr, trop réalistes qui étouffent la transcendance, tandis que d'autres la suggèrent par des signes minimaux, des signes qui vont vers l'abstraction. Hein. Et maintenant, je vais voir dans la Bible juive même une sorte de réhabilitation de l'image. En effet, jusqu'à présent, nous avons dit qu'il y avait une interdiction des images. Et cependant, la Bible affirme la primauté quand même de l'image dans son ordre, puisque dans la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. » C'est Genèse 1, 26, 27. Donc, il y a une primauté essentielle de l'homme, hein, qui est affirmée par rapport à tout le reste de la création, dans ce passage de la Genèse, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, vous voyez, à la fois, nous sommes partis d'une méfiance énorme vis-à-vis de l'image, et maintenant, nous avons ce fameux texte où, en l'homme, il y a quelques traces de divin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, à l'image de Dieu, hein? Dans la Septante, le mot pour cette notion d'image, c'est le mot « eikon ». Qui a donné notre icône. Hein. Et pour le mot « ressemblance », à la ressemblance de Dieu, vous avez « homoiosis ». Alors, il est évident que la ressemblance modère l'image. Hein. Si l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, la ressemblance, quand même, exclut la parité. Hein. L'homme n'équivaut pas à Dieu. Hein. Je dirais donc qu'il y a dans l'homme une trace originaire qui le réfère à Dieu, dont il est une partie. C'est ce qu'on appelle le théomorphisme, hein. Il était créé à l'image de Dieu, mais évidemment l'homme n'est pas égal ou identique à Dieu puisqu'il lui est simplement ressemblant. Je pourrais dire qu'il est orienté vers lui, et c'est en quoi il y a une sorte de théotropisme. Vous savez, comme l'héliotrope ou le tournesol est orienté vers le soleil. Hein. Héliotrope, c'est ça, hein, tournesol en latin, héliotrope en grec, c'est la même chose. Une orientation, une aimantation vers le soleil. Eh bien, l'homme est comme aimanté vers Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est comme les enfants. Quand on dit, tiens, tel garçon ressemble énormément à son père, c'est, il y a l'image, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les traits de l'enfant l'image du père,
oui.
Mais néanmoins, ce n'est pas le père. C'est une autre individualité, mais qui oui. Fait filiation, continuité de cette image. On peut dire, voilà, c'est une relation à la fois ressemblant et différent.
Tout à fait. Donc ressemblant exclut l'identité, exclut la parité, effectivement. Hein. Mais même cette expression créée à l'image de Dieu, elle est ambiguë. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu est l'objet du façonnement? Et dans ce cas-là, on aurait un génitif ou un complément de nom objectif. Et alors, la position de l'homme théomorphe gagne considérablement en importance. Hein. Mais si, au contraire, Dieu est le sujet du façonnement, donc il s'agirait d'un génitif subjectif, alors la position de l'homme serait moindre. Hein. Dieu a créé l'homme à son image signifierait seulement que Dieu a créé l'homme à sa propre fantaisie, c'est-à-dire selon l'image qu'il s'en faisait, vous voyez. Donc le complément du nom a deux possibilités. Hein.
Alors, tout dépend, effectivement, c'est des questions de choix, mais si on resitue cette question-là dans son enracinement historique, religieux, dans un environnement très précis, parce qu'au départ, en fait, c'est le mythe hein, du dieu Tiamat, c'est-à-dire comment l'homme a été créé, on a tué un dieu, et puis on l'a façonné avec de l'argile pour en faire un homme, l'homme étant un esclave. C'est un sous-homme, un presque rien. Et dans le livre de la Genèse, ce qui est dit quand on dit Dieu est à l'image, l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire on lui donne une autre dimension. C'est-à-dire, du coup, la vie de l'homme n'est pas un presque rien, mais un presque tout.
Tout à fait, tout à fait. Mais l'option selon laquelle il faudrait comprendre Dieu a créé l'homme selon l'image qu'il s'en faisait, c'était celle de Rashi. C'est-à-dire, au XIIe siècle, un célèbre commentateur juif, Rashi de Troyes. Hein. Bon, alors, en fait, on hésite sur cette question. Le livre de la Sagesse, qui est un livre qui appartient au second canon, hein, en vient à dire non pas que l'homme est à l'image de Dieu, mais qu'il est lui-même image de Dieu. Voici ce qu'on lit, hein, en Sagesse 2.23. Dieu a créé l'homme pour l'immortalité, il en a fait une image de sa propre nature. Donc il y aurait là, d'après le livre de la Sagesse, mais elle n'est pas reçue dans les Bibles protestantes, hein, j'ai vérifié, c'est un livre deutérocanonique, ou certains disent apocryphe, hein, eh bien il y aurait un point commun entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire l'immortalité ou l'incorruptibilité. Mais alors, comment concilier cela avec la mortalité d'Adam, dans le premier homme selon la Genèse ?
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute du réseau FM+, des mots pour le dire, avec Michel Théron. Donc, on se posait avant cette pause musicale la question que vous posiez, Michel. Comment concilier la mortalité d'Adam, le premier homme, selon la Genèse? Là,
voilà.
On va terminer là-dessus.
Voilà. Alors, pour éclaircir ce problème, le judaïsme alexandrin et Philon aussi ont distingué deux créations en suivant les deux récits de la Genèse qui sont effectivement fort différents, au point que cette dissemblance peut dérouter considérablement le lecteur. Le premier récit, on le trouvera en Genèse 1, 2 jusqu'au verset 4a, première moitié du verset 4, et le second récit, c'est Genèse 2, verset 4, deuxième moitié, et suivant. C'est donc seulement l'homme terrestre qui est créé à l'image de Dieu, comme on le lit en Genèse 1, 27, et celui-là, effectivement, est immortel. Tandis que l'homme, c'est l'homme céleste, hein, c'est l'homme céleste qui est créé à l'image.
Oui, je me disais aussi, il y a quelque chose qui coule pas.
Oui, tout à fait, tout à fait. L'homme céleste est créé à l'image de Dieu. Tandis que l'homme terrestre, lui, il est tiré de la poussière, hein, c'est ce qu'on voit en Genèse 2, 7, où il reviendra après sa mort, Genèse 3, 19. Poussière tu es et poussière tu reviendras. Donc on a deux Adam, hein. Un Adam immortel, créé à l'image de Dieu, hein, l'Adam céleste, et un Adam mortel, un Adam terrestre, n'est que poussière. Et c'est sur cette distinction entre les deux Adam que s'appuie Paul, lorsqu'il veut étayer son discours sur la résurrection, qui d'après lui n'est pas une résurrection charnelle, mais une résurrection spirituelle. Voici ce que dit Paul, 1 Épître aux Corinthiens 15, 47-50. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, donc c'est le second Adam, hein. Le second homme est du ciel. Là, en réalité, c'est le premier, Paul inverse, hein. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et donc toute vie humaine est comprise entre ces deux images, l'image du terrestre qui est imparfaite à cause de la première faute, et celle du céleste qui est parfaite, que nous revêtirons après notre mort. C'est ainsi que mourir, selon une très belle formule du christianisme orthodoxe, c'est naître au ciel. C'est
alors
intéressant,
Michel,
il me semble, cette opposition des deux récits de passion.
Mais justement, pourquoi le christianisme s'est-il engagé sur la voie des images?
Voilà, alors le christianisme s'est engagé sur la voie des images pour une raison théologique, hein. C'est l'idée d'incarnation de Dieu. C'est cette idée fondamentale qui sépare parmi les religions abrahamiques, c'est-à-dire qui se réfère à Abraham, d'un côté le judaïsme et l'islam, et de notre côté le christianisme. En effet, pour les chrétiens, Dieu s'est véritablement incarné en la personne de Jésus-Christ qui a pris la forme d'un homme. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans l'épître aux Philippiens 2.7, la fameuse kénose, hein, le dépouillement ou la kénose de Jésus qui a abouti à une similitude humaine, en grec homoioma, je lis le passage, « existant en forme de Dieu ». Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même dans Ekénosène, d'où la kénose, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Là voilà l'homoioma, la similitude. Alors bien sûr, on peut toujours discuter, on peut toujours dire que le vocabulaire employé dans cette épître a des relents de docétisme. En effet, la forme morphée n'est peut-être pas la réalité. Alors je rappelle que pour les docètes, Jésus ressemblait simplement à un homme. Il avait simplement une apparence humaine, mais en réalité, cette apparence était fantomatique. Néanmoins, je pense que le prologue de Jean est très clair là-dessus. Lorsqu'on nous dit que le Verbe s'est fait chair, hein, Jean 1, 14, alors là, manifestement, l'incarnation, c'est-à-dire l'humanité de Dieu, est apparue. Et c'est pour cela qu'on lit dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens 1, 15, à propos de Jésus-Christ, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Donc, si Dieu s'est vraiment incarné en la figure d'un homme, eh bien, on a pu penser qu'il s'est rapproché de nous au point de permettre sa représentation en la figure de son Fils. Aussi, il y a eu à Byzance d'abord une grande crise, la crise de l'iconoclasme, mais ensuite le concile de Nicée II, à ne pas confondre avec le concile de Nicée I qui a affirmé la consubstantialité du Père et du Fils. Le concile de Nicée II a autorisé les images, mais alors avec des restrictions, des conditions très importantes. Elles devaient n'être, comme je l'ai dit en commençant l'émission, que bidimensionnelles. Le style des icônes était étroitement fixé, il y a un hiératisme, c'est-à-dire un côté sacré, une frontalité, une présentation frontale, une rigidité immuable, au point qu'on peut parfois parler d'un monologue byzantin, un monologue des icônes, un profond antinaturalisme, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire que les images ressemblent vraiment à notre vie, et tout cela implique une abstraction latente. Et à regarder certaines icônes, je me dis parfois que la géométrisation formelle en est telle que elle semble le regret même de leur propre sujet. Ce n'est pas pour rien que le créateur de l'art abstrait, c'est Kandinsky, et Kandinsky était familier du monde des icônes, hein. Il les connaissait. Après, il y a eu Javlinsky, etc., qui lui aussi a fait des icônes tendant vers l'abstraction, mais le premier, Kandinsky, créateur de l'abstraction totale, était familier du monde des icônes. Ce qui est certain, c'est que l'orthodoxie se cantonne à la représentation du Fils. Même si le Fils est l'image du Père, hein, la représentation du Père, pour l'orthodoxie, elle a toujours été rigoureusement interdite, hein, suivant la formule qui termine le prologue de Jean. Dieu, c'est un fait que personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, dirigé vers le sein du Père, celui-là nous l'expliqua, Jean 1, 18. Hein. Ce Dieu toujours invisible, Dieu, c'est un fait que personne ne l'a jamais vu, et ce Dieu invisible renvoie toujours à l'interdit traditionnel des Juifs, où Dieu dit à l'homme, hein, à Moïse, « Nul ne peut me voir et vivre hein. ». C'est l'Exode, Exode 33, 20. Donc, vous voyez, la représentation du Père n'a pas lieu hein, dans le monde orthodoxe, hein. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, hein, l'Occident chrétien n'a pas eu la prudence de l'orthodoxie, puisqu'il a représenté sans vergogne Dieu le Père, hein. On pense par exemple au plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, hein, où il y a un dieu chevelu et barbu qui crée l'homme. Hein. Eh bien, cette figuration est impensable et blasphématoire pour un chrétien orthodoxe. Et le fameux vieillard barbu par lequel nous nous représentons ordinairement et familièrement Dieu vient de là. Hein. Alors, on peut déplorer cette habitude de représenter le Père, car il est bien facile, une fois qu'on l'a montré en vieillard barbu, ensuite de ne plus y croire. Et peut-être que notre Père Noël vient un peu de là. Hein. Donc, on ne le sait pas assez, mais l'orthodoxie refuse. Au mieux, il y aurait une main, si vous voulez, avec un doigt, hein, mais jamais la figure de Dieu le Père. Alors, bien sûr, les protestants ne sont pas concernés par cette querelle, hein, puisqu'on ne représente ni le Père, ni le Fils. Hein, c'est ça, Redouane. C'est une libération pour vous, Redouane?
C'est une libération... L'image enferme, c'est-à-dire justement la dynamique biblique, et c'est là où il faut toujours situer les écrits bibliques. Par exemple, pour le monde musulman, si l'islam est aussi catégorique, aussi rigoureux sur cette question-là comme le monde juif, c'est que dans les contrées, on prend la Mecque. À la Mecque, il y avait plus de 300 idoles. 300 images. Donc il y avait un paganisme extraordinaire où chacun venait faire culte. C'est un brouhaha, c'est le Capharnaüm des dieux qu'était la Mecque, comme les temps babyloniens, comme avant l'arrivée à la Terre promise. Et c'est vrai que ce recul, c'est une manière de démystifier et resituer à la fois la nature et l'homme. Et de ce côté-là, effectivement, la non-représentation me semble une manière de libérer à la fois l'imaginaire qu'on peut avoir, et puis surtout ne pas enfermer Dieu dans une identité, qui est l'identité, c'est-à-dire c'est mon fantasme. Je fantasme que Dieu est comme ça. Et, chose qu'on n'arrête pas de faire, c'est-à-dire on imagine le Dieu comme étant le père fouettard, parce que Dieu punit.
Il est vrai que, par exemple, je pense là à ce que dit Lao Tzu dans le Tao Te Ching, la grande image n'a pas de forme. Hein. C'est-à-dire inconnaissable, invisible, qui est supérieur à toute forme, eh bien, justement, un est dépourvu. Un est dépourvu. Mais s'agissant des images, alors ceux qui les défendent distinguent bien toujours ce qu'ils appellent la dulie ou la vénération, ça vient du grec, hein, et la latrie ou l'adoration. Donc il faut simplement vénérer les images, mais ne pas les adorer. Hein. En monde orthodoxe, c'est le cas. Hein. En monde romain, alors, on a dit que les images pouvaient avoir une valeur de catéchisme, une valeur pédagogique. En effet, il faut le savoir que les fidèles, pendant longtemps, ne savaient pas lire. Hein. Donc, ils étaient enseignés, précisément, par ce catéchisme iconique, par ce catéchisme des images. Mais dans ce cas-là, l'image peut servir aussi à conditionner, à manipuler. Et en regard de quoi, et c'est pas vous que je l'apprendrai, Edouane, c'est la lecture qui est libérante, qui nous libère. L'image peut manipuler. Et regardez aujourd'hui, tous les panneaux publicitaires de nos villes, ce sont nos modernes iconostases. L'iconostase, c'est le mur sur lequel sont disposées les icônes dans l'Église orthodoxe. Eh bien, ces panneaux sont conditionnants et manipulateurs. Hein. Ils sont voués, bien sûr, non pas au culte de Dieu, mais au culte de la consommation. Hein. Eh bien, là, effectivement, on aurait envie d'une écologie, justement, qui supprimerait ces images. Dans le moderne iconoclaste, vous voyez, Redouane, ce serait pas quelqu'un qui, comme Polyeucte, aurait brisé les statues païennes. Hein. Polyeucte, c'est l'ancêtre des talibans. Vous savez que les talibans ont brisé les bouddhas de Banyan. Hein. Bon, voilà l'iconoclasme traditionnel. Mais le moderne iconoclaste, ce serait quelqu'un qui irait taguer, par exemple, les panneaux publicitaires. Vous voyez.
Détourner. Hein. Détourner quelque part.
Détourner, voilà. Ou les détruire, ou les maculer, vous voyez. Hein. Donc, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'il y aurait dégradation de monuments,
De biens publics.
Alors, je reviens maintenant à ma théologie de l'image. Et je vois chez Paul une théologie très subtile. Hein. En effet, il dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, 3:18, il dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, là j'aime bien ces mots, miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire à gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est esprit. » Eh bien, pour Paul, il s'agit, comme je l'ai déjà dit, de partager le sort du nouvel Adam, qui est d'abord incarné en la figure de Jésus ressuscité. Eh bien, ce nouvel Adam nous fait participer à la vie divine, et la vision mystique que Paul en donne favorise notre propre transformation à son image, à l'image du nouvel Adam, et cela annonce l'aphorisme patristique. Patristique, ça veut dire qu'il y a rapport au père de l'Église. Un aphorisme qui est commun à saint Athanase et à saint Irénée, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Si donc Dieu a fait l'homme à son image, la dent céleste, hein, cette image même favorisera notre propre divinisation. Alors pour Paul, il s'agit par la contemplation de l'image de la dent céleste, de conjurer, par l'intermédiaire du Christ, qu'il incarne le premier, le péché originel de l'Adam terrestre. Mais on pourrait dire, en sortant totalement de ce schéma paulinien de la faute et de la rédemption, qu'il importe d'avoir simplement accès au fond de soi à son propre modèle éternel, immuable, à sa propre icône, par-delà les fausses images dont nous nous protégeons en fait, pour nous fuir nous-mêmes et pour flatter notre narcissisme. Voici ce qu'on lit dans mon cher évangile selon Thomas, au Legion 84. Jésus a dit, les jours où vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez, mais lorsque vous verrez vos modèles, alors le mot c'est icon, en copte même, hein, qui est repris du mot grec, hein, vos modèles qui au commencement étaient en vous, qui ne meurent ni ne se manifestent, qu'est-ce que vous supporterez, vous voyez. Donc, là on entre dans une autre problématique que celle de Paul, C'est la problématique du gnostique. Hein. Paul oppose, vous voyez, pardon, Thomas oppose la ressemblance et l'image. Lorsque vous voyez à quoi vous ressemblez, donc ça flatte notre narcissisme. Hein, vous réjouissez. Hein, je ris de me voir si belle en ce miroir, etc. Hein, bon, mais lorsque vous verrez vos modèles, alors le modèle, c'est l'icône. Hein, alors, ça appartient non pas au phénomène, c'est-à-dire à l'apparence, à l'accident, hein, mais à l'ousia, c'est-à-dire à l'essence profonde de l'être. C'est pour ça que Thomas dit « Heureux celui qui était déjà avant qu'il n'existe » au Logion 19. Donc l'existence est une sorte de chute ontologique, et l'être au contraire que nous sommes depuis toujours nous renvoie à notre vrai visage, qui nous institue vraiment et nous invite à devenir pleinement ce que nous sommes. Alors, vous voyez, on peut trouver cette gnose comme, quelque chose de pittoresque peut-être, d'étranger, de dépaysant et qui ne nous concernerait pas. Et moi, je pense au contraire qu'on a des choses à tirer de cela. En effet, je reprendrai ici, non pas en gnostique, mais en agnostique, hein, les mots mêmes de Paul relatifs au miroir, mais je leur donnerai un autre sens. Alors, ce miroir, c'est ce que j'appelle un miroir instituant. Tout le monde sait que l'image que donne le miroir a une profondeur, une densité particulière que n'ont pas les images du monde. Par exemple, Baudelaire, dans l'invitation au voyage, parle des miroirs profonds, hein, des miroirs profonds qui décoreraient notre chambre. Hein. Il faut évidemment creuser cette problématique du miroir. Et donc, je dirais que, par analogie avec ces peintres, vous savez que les peintres se promènent toujours avec un miroir en poche, pour y voir vraiment leur sujet. Hein. Il y a une sorte d'essentialisation du miroir qui tient peut-être à l'existence du cadre. Hein. Le cadre borne, clos et donc met en valeur ce qu'autrement le simple spectacle du monde banalise et effiloche. Il y a un beau poème d'Apollinaire dans les Calligrammes qui s'appelle « Cœur, couronne et miroir ». Voici ce que dit Apollinaire. Il dispose ses lettres en forme de miroir. Dans ce miroir, je suis enclos, vivant et vrai, comme on imagine les anges, et non comme sont les reflets. Thank you.
toujours à l'écoute du réseau FM+, des mots pour le dire avec Michel Théron. Donc nous citions, enfin vous citiez Michel, ce petit mot tiré dans calligramme d'Apollinaire. Dans ce miroir, je suis enclos vivant et vrai, comme on imagine les anges et non comme sont les reflets. Donc le miroir permet donc d'imaginer, vous dites.
Absolument. Mais d'abord, dans le miroir, bon, il y a un cadre. Et à partir du moment où il y a un cadre, il y a une essentialisation, c'est-à-dire l'image reflétée dans le miroir me semble beaucoup plus vraie que l'image du spectacle du monde. C'est pour ça qu'on dit que les miroirs sont profonds, hein. Donc, il dit vrai, hein, il y a une force probante du miroir, ne serait-ce que par le cadre, hein. Le cadre isole, donc magnifie, il met en valeur, il sépare du reste. Vous êtes d'accord, Edouane? Pourquoi les peintres se promènent toujours avec un miroir dans leur poche? Ils regardent le spectacle du monde, un paysage, etc., dans le miroir, parce qu'ils ont déjà le cadre de ce qui sera leur tableau. Et puis, il y a une netteté particulière du miroir. Hein. Quand Baudelaire dit qu'ils sont profonds, effectivement, ils ont, ils nous donnent l'impression d'une vérité plus grande. Alors pourquoi vivant? Parce que vivant et vrai, je répète le poème, dans ce miroir je suis enclos vivant et vrai, comme on imagine les anges, et non comme sont les reflets. Bon, il ne s'agit que d'un reflet, ça c'est la logique qui nous le dit. Mais par l'imagination, nous pouvons y voir autre chose. Et pourquoi est-ce qu'il dit qu'on est vivant, hein? Parce que dans le miroir, il n'y a peut-être pas de réel, mais il y a du vrai. Et c'est cette force probante et convaincante du miroir qui donne véritablement vie. Je suis enclos, vivant et vrai. On voile les miroirs dans les chambres des morts, et le vampire, qui est un mort vivant, ne se reflète dans aucun miroir, vous voyez ? Donc ça veut dire que il n'a pas la vie, hein, c'est un mort dans la vie, le vampire. Vous voyez.
Alors ce que vous dites là me fait mieux comprendre ces paroles de Jésus qui disent on ne peut pas avoir deux maîtres, Dieu et Mammon.
Oui.
Parce que comment passer du miroir à la fenêtre ouverte, il suffit d'une minuscule pellicule d'argent.
Ah oui, en effet, je ne pensais pas à ça. Du miroir, comment.
C'est-à-dire ce qui nous empêche de voir l'autre parfois, ce qui fait qu'une fenêtre devient un miroir, c'est Mammon.
Oui, oui, mais je dirais
Mais c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, parce que là, c'est le miroir enjolivé, le miroir bling-bling, on dirait. Hein.
Ouais.
Le miroir avec ses dorures. Hein. Mais vous voyez, je ne sais pas, ça surprend aussi beaucoup de monde quand je dis ça. Il me semble que nous sommes vraiment vrais et vivants que dans des représentations, justement, que nous faisons de nous-mêmes, vous voyez, hein. Mais dans la vie, ordinairement, tout s'effiloche, tout va à volo, tout se dégrade, tout se refroidit. La vie est livrée à une entropie, hein. En revanche, dans une représentation quelconque, et toute représentation est une sorte de miroir, alors là, il y a une pureté. Une pureté et une sorte de profondeur essentielle par opposition aux circonstances de la vie qui, me semble-t-il, est intéressante. Par exemple, quand on aime, c'est mélangé. Quand on est, quand on déteste, c'est mélangé. Mais si on lit un roman, par exemple, alors là, l'amour, la haine sont ont un poids essentiel, très important. C'est ce que dit Sartre dans La Nausée, hein. Bon, les œuvres appartiennent à l'être, hein, et non pas à l'existence. L'existence est comme une pâte molle ou un chewing-gum, si vous voulez, qui est amorphe. Hein. Alors, si on regarde une représentation quelconque, et toute représentation est un miroir au sens où je l'entends, hein, eh bien, on a là une force importante de vérité, vous voyez. Donc, il faudrait que vous lisiez, que les spectateurs, les auditeurs lisent, évidemment, le livre de Pierre Legendre qui s'appelle « Dieu au miroir ». Et en sous-titre « Études sur l'institution des images », qui est paru chez Fayard en 1994, ou bien encore, je renvoie...
Et vous avez écrit quelque chose,
oui,
là-dessus.
Voilà. J'ai écrit d'abord un livre qui s'appelle « Comprendre la culture générale » chez Ellipse, et qui est encore disponible. Ou alors, il faudrait lire les chapitres sur les constructions symboliques, qui sont autant de miroirs instituants qui nous donnent véritablement vie, vie profonde. Hein. Dans la vie, je répète, je m'enlise, mais quand j'entends une chanson, par exemple, je ne sais pas moi, 3 minutes, hein, l'hymne à l'amour de Piaf, sans amour on n'est rien du tout, alors à ce moment-là, je suis confronté à la pureté absolue. Mais après, je retombe dans la vie. Alors voilà ce que j'entends par miroir. Ça peut être un film, ça peut être une chanson, ça peut être un livre, ça peut être un tableau, une peinture, hein, mais je dirais que dans l'instant que je vois le film, je suis dans un autre monde que dans le monde de la vie. Et j'ai aussi fait un livre au CRDP de Montpellier, qui je pense est encore disponible en 1993, qui s'appelle « Laquelle est la vraie ?», dont la couverture illustre toute cette thématique. En effet, on y voit un visage féminin qui est flou, mais qui se reflète dans un miroir qui, lui, est très net. Hein. Le miroir est net. Alors, le visage féminin est flou. Alors là, c'est une question de mise au point, comme on dit en photographie. Comme je pratique la photographie, hein, ça vous dépend où on met au point. Si on met au point sur l'image du miroir, à ce moment-là, ça dévalorise le visage de la vie ordinaire qui devient flou pour valoriser justement ce miroir qui enclos et dans lequel on est vivant et vrai, vous voyez. Alors, je ne sais pas, peut-être que beaucoup des auditeurs ne comprendront peut-être pas cette éloge que je fais des représentations ou des œuvres et donc des images au sens très large, hein, par rapport au monde de la vie qui me semble mêlé et insuffisant. Bon, mais je pense que il faut quand même réfléchir un peu à cette problématique. Alors, pour résumer tout notre itinéraire, nous sommes partis en début d'émission de l'image interdite, hein, et maintenant, nous aboutissons à l'image nécessaire. Hein. Nous sommes passés par de la défense de voir Dieu à l'homme transformé, donc la Bible juive, à l'homme qui est transformé par l'image du Christ, qui est lui-même image de Dieu, c'est ce que l'on a chez Paul. Et puis nous sommes arrivés à l'homme qui doit advenir à l'humanité véritable par la découverte en lui de son propre modèle ou de son propre archétype, comme dit l'Évangile selon Thomas. Mais lorsque vous verrez vos modèles, à ce moment-là, qu'est-ce que vous supporterez? Et enfin, nous sommes arrivés à la fin, à la nécessité où l'homme se trouve, sous peine, à mon avis, de régression et de déculturation, d'avoir un modèle instituant où il puisse se refléter. Voilà, miroir instituant. Mais enfin, je conclurai en disant que l'interdit biblique initial a quand même du sens. Il faut en tirer l'idée d'une certaine numinosité de l'image. Alors ça veut dire quoi, numinosité? Ça veut dire caractère sacré, caractère qui est à la fois attirant et effrayant, et qui fait peur. Donc l'image doit être manipulée, je dirais, avec précaution. Hein, manipulée avec précaution, parce que effectivement, bien sûr, elle peut être instituante, comme je viens de le dire, mais aussi il y a des images dangereuses et je dirais potentiellement médusantes. Alors méduse, pétrifier celui qui jetait les yeux sur elle, hein, c'est ça, méduse. Hein, être médusé, c'est être cloué sur place. Il est toujours dangereux de voir Dieu pour le croyant, hein. Et alors je dirais pour l'agnostique, il est dangereux de voir une image laïque ou laïcisée de Dieu, qui est l'image de l'origine, comme par exemple dans le célèbre tableau de Courbet, l'origine du monde, hein, qui se trouve actuellement au musée d'Orsay. Ce tableau a fait scandale parce qu'il représentait sans fard un sexe féminin vu de très près. Il a appartenu à Jacques Lacan, et Jacques Lacan l'avait dans son bureau, et il l'avait caché au moyen d'un rideau. Hein. Il l'avait voilé, parce que, effectivement, c'est dangereux. Alors, dangereux de voir Dieu, dangereux de voir l'origine, d'où nous venons. Vous connaissez, Redouane, l'épisode des fils de Noé, qui, ayant vu la nudité de leur père, avaient recouvert cette nudité d'un manteau. Hein. Et on ne peut pas voir d'où l'on vient, que ce soit le père nu ou la matrice féminine. Et aujourd'hui, ce tableau est au vu au sud de tout le monde. Hein, je ne sais
d'ailleurs,
pas.
Il a été présenté ici au musée Fabre il y a l'année dernière. Qui d'ailleurs a choqué quelques lecteurs de la Gazette, puisque justement le tableau dont vous parlez a été représenté dans la Gazette, et il y a eu des courriers de lecteurs disant quand même, oh là là, c'est à la vue des enfants.
Ah voilà. Eh bien, vous voyez, on aurait pu dire la phrase de l'Exode, l'Exode 33, hein, « Nul ne peut me voir et vivre hein, ». Nul ne peut me voir et vivre. Hein. Et je pense quand même que du sexe féminin, nous venons tous, hein, nous provenons tous, comme de toute transcendance, comme de toute ouverture, hein, qui, si elle nous fait advenir à la vie, nous déracine aussi. Hein. Et j'ai choisi pour le dernier morceau musical de l'émission une très belle chanson de Léo Ferré qui s'appelle « Cette blessure ». Et il dit toujours « Cette blessure d'où je viens ». Alors c'est effectivement le sexe féminin, hein, c'est l'origine de la vie, mais c'est aussi la transcendance, l'ouverture à la transcendance, c'est-à-dire l'insatisfaction vis-à-vis de soi-même, cette blessure d'où je viens. Voilà, l'émission a été peut-être, a couvert beaucoup, beaucoup de domaines. Hein. Elle est un petit peu, surchargée, je ne sais pas. Hein, les auditeurs nous le diront.
C'est comme l'image. Hein, l'image est souvent surchargée parce qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de montrer. Merci Michel. Nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine encore pour découvrir d'autres mots comme on a fait avec le premier tome. Donc 50 mots déjà dans ce premier tome. Combien de mots pour le prochain tome?
50 mots.
5 mots aussi. Donc
ça paraîtra à l'automne.
Voilà. Merci Michel, merci à vous. On vous donne rendez-vous même heure, mêmes ondes, la semaine prochaine. Et entre-temps, portez-vous bien.
Au revoir. À bientôt.
Cette blessure meurt la mer comme un chagrin de chair. Où va la vie germer dans le désert qui fait de sang la blancheur des berceaux qui se referme au marbre du tombeau. Cette blessure d'où je viens, cette blessure où va ma lèvre à l'aube de l'amour, où bat ta fièvre un peu comme un tambour, d'où part ta vie en y pressant des doigts, d'où vient le cri le même chaque fois. Cette blessure d'où tu viens, cette blessure qui se referme à l'orée de l'ennui, comme une cicatrice de la nuit, et qui n'en finit pas de se rouvrir sous des lames qu'affile le désir. Cette blessure comme un soleil sur la mélancolie, comme un jardin qu'on n'ouvre que la nuit, comme un parfum qui traîne à la marée, comme un sourire sur ma destinée. Cette blessure d'où je viens, cette blessure drapée de soie sous son triangle noir, où vont des géomètres de hasard bâtir de rien des chagrins assistés, en y creusant parfois pour le péché. Cette blessure d'où tu viens, cette blessure.